Évidemment, il est bien difficile dès l'abord de ne pas jeter un regard rétrospectif sur cette longue durée qui, pour moi, a été assez rapide. Mais enfin, ça fait quand même une quarantaine d'années maintenant, puisque j'ai dû commencer à explorer les premiers documents concernant Claude Quint en 1983-84. Et donc voilà quasiment 40 ans que l'on travaille et que l'on recherche sur Claude Quint. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur les photographies et les documents que j'avais pu recueillir, on cherchait désespérément dans le désert. Dès que j'ai commencé, un extrait des Paris sont ouverts, qui avait publié Maurice Nadeau en 1948, qui avait été réédité en 1964, quelques reproductions dans un livre d'Edouard Jaguerre, La Chambre Noire, en 82, et puis aussi quelques reproductions dans le catalogue dirigé par Rosaline Krauss et Daoun Hadès en 1985, à l'occasion de l'exposition du Centre Pompidou, qui suivait d'ailleurs l'exposition de Washington. D'ailleurs, je regrette que Daoun Hadès ne soit pas là parmi nous, parce qu'elle m'aurait expliqué la présence de Claude Quint à cette exposition et dans le catalogue. Parce qu'à l'époque, les photos n'étaient pas du tout connues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai une vague idée, je vois à peu près la piste, mais enfin, j'aurais bien aimé qu'elle me confirme. Donc, dans ces années-là, 82-83, je commençais à inventorier difficilement, lors de nombreux séjours à Jersey, le fond de photographies et de documents divers entreposés en vrac dans un chaos invraisemblable au fond d'un entrepôt de brocanteurs. J'ai souvent rapporté les péripéties de cette découverte et la part que j'y ai pris, mais je ne veux pas insister ici. Éventuellement, nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Donc, on voit la situation il y a 40 ans. On peut dire que le retournement de la situation fut rapide, et l'on peut même dire qu'il s'est emballé à partir du milieu des années 90. Il y eut mon premier essai biographique en 1992, suivi aussitôt de deux expositions de photographies organisées par la Galerie Zabriskie, dont il faut saluer le rôle de pionnière à cet égard, une petite exposition à New York et une autre à Paris. Ces expositions à la Galerie Zabriskie suscitèrent des articles en France et aux États-Unis et quelques achats institutionnels. Et on peut dire que ça va commencer là. Puis ce furent parmi les plus importantes les présentations monographiques du musée de Saint-Hélier à Jersey, en 93, du musée des Beaux-Arts de Nantes en 94, du musée d'art moderne de Paris en 95, de la Neue Pinakothek à Munich en 97, jusqu'à la rétrospective du musée du Jeune Paume à Paris en 2011, qui fut un exploit, puisque les photos sont dispersées. Elles se trouvent maintenant dans des musées ou quelques-unes en main privée, mais très peu. Donc les photos deviennent de plus en plus inaccessible. Et je crois qu'on ne reverra pas une exposition aussi importante que celle du Jeu de Paume. Quant à la biographie critique, elle a connu une formidable inflation dans les années 2000, et bien entendu par la suite. Il est devenu parfaitement impossible de tout lire et n'en tenir le compte. Il convient de signaler la publication assez tardive des écrits en 2002, qui réunissait l'essentiel de l'œuvre littéraire de Claude Quint, tout en rendant public bien des sources que j'avais exploitées dans mes recherches. l'on attend la publication de la correspondance privée, si essentielle à la démarche de Claude Cahun. La mise à jour des productions de Claude Cahun, dont la diversité m'a longtemps surpris et ébloui, fut longue et progressive. Tout était à élaborer, il fallait recomposer un véritable puzzle. Le catalogue raisonné des travaux photographiques n'a pas démêlé toutes les zones d'ombre, ni surmonté toutes les difficultés relatives à la datation des clichés. Il reste des incertitudes. Et pour quelques pièces, même, il y a un doute sur leur authentification. Claude Cahun ne nous a pas facilité la tâche. Elle était très loin de se douter de l'écho qu'elle susciterait 30 ans après sa mort. Et les déprédations de 1944-45 demeuraient sans remède. Il y a eu beaucoup de pertes. Tâchant d'appliquer ce principe qui fut toujours le mien, de rester au plus près de ce que soutient Claude Cahun, j'ai dû refaire mon essai autobiographique en 2006, revenir sur certaines inaptitudes factuelles, faire valoir de nouvelles sources. Depuis cette date, j'ai encore pu réunir une grosse quantité de notes qui attendent d'être exploitées, qui permettraient sinon d'ouvrir des pistes spectaculaires, du moins d'apporter des précisions et des approfondissements. Je les mets volontiers à disposition du public. Là. Bon, moi, je ne les reprendrai pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez me solliciter. Bon, je sais aussi que j'attends et que j'ai beaucoup à apprendre des uns et des autres. Voilà qu'on ne saurait plus dire, comme ce fut longtemps le leitmotiv, que Claude Cahun demeure étonnamment méconnu. Hein, parce que c'est toujours ce qu'on disait, elle est méconnue. Qui connaît Claude Cahun? On ne peut plus le dire, même si nous ne sommes pas si nombreux ici. Mais bon, alors, à moins qu'elle ne demeure bien étrangement connue. Je me propose de prolonger les éléments d'appréciation que je présentais dans la postface à ma biographie de 2006, tant ils se sont accentués et amplifiés. Je serai amené par là même à profiler quelques-uns des thèmes que nos rencontres permettront de développer et d'approfondir. Je vais lancer un peu des pistes, mais certaines seront explorées par vous-même cette semaine. Comme chacun aura pu l'observer, Claude Cahun est devenu l'objet d'une profusion exponentielle de marques de reconnaissance qui prend vraiment toutes les formes imaginables. Outre les innombrables études, les thèses, les monographies, les traductions, maintenant en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, dernièrement au Brésil. Outre les expositions, nombreuses, les spectacles, les pièces de théâtre, performances, les films, les sites sur Internet, ils sont nombreux. Il faut faire un sort particulier aux mentions et aux usages au service de causes plus ou moins équivoques. Ainsi, l'on peut voir Claude Cahun enrôlé dans la valorisation des politiques municipales. Son nom, souvent affilié à celui de Suzanne Malherbe, vient désigner des rues ou des places. Dernièrement, à Paris, près du boulevard Raspail. Son effigie apparaît dans des fresques murales, elle a une grande à Nantes, dans des portraits sculptés. Je ne sais pas ce qu'est devenu le projet d'un buste monumental sur les bords sur les bords de la Loire, à Nantes. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Elle peut aussi servir à la promotion publicitaire d'une entreprise de décoration. Je les cite, hein, je ne suis pas publicité, mais je préfère les citer parce qu'on ne me croirait pas, moi, on me croirait pas. C'est le catalogue Leroy Merlin en 2011. Hein. Si vous regardez le catalogue Le Roi Merlin 2011, vous verrez, il y a une grande page avec un grand poster de Claude Cain, sans autorisation, évidemment, ces gens-là se servent. Promotion publicitaire d'entreprise de décoration, d'une maison de prêt-à-porter, féminin, enfin, bien, c'est comme des garçons, et même la haute couture, je fus sollicité assidûment par la maison Dior pour une collection. Bon, ça n'a pas abouti, je n'insiste pas sur les raisons. Enfin, d'un consortium de cosmétiques au Japon, Natsuko Nagai a peut-être entendu parler, la maison Shiseido a fait une petite exposition, Claude Cain, dans ses locaux. Source d'inspiration pour de nombreux artistes contemporains, c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas une intervention à ce sujet, elle est devenue l'objet d'innombrables imitations, hélas, souvent très stéréotypées. Mon frère, de retour à New York, me disait qu'il voyait du Claude Cain partout. Et notamment, beaucoup de variations sur les 5 ou 6 autoportraits un peu phares des années 1925-1928. Là. J'avoue d'ailleurs que je dois faire un effort de réadaptation, d'innocence ou de spontanéité pour réapprécier ces magnifiques autoportraits. Mais alors je pense à la série Au miroir, puis je pense aussi à la série I'm Training, Don't Kiss Me, mais, bon, qui sont vraiment les photos phares. Donc je dois faire un effort pour me réadapter à ces magnifiques autoportraits qui reviennent en boucle avec les mêmes commentaires, un peu comme une ritournelle. Maintenant, voilà, ça. Devenu un prétexte ou un faire-valoir pour des performances, des jeux interactifs, alors ça paraît étonnant, récemment à Nantes encore, qui est à la pointe, là, un fauteuil connecté, un fauteuil, avec en voix off des textes de Claude Cain qui vous serine. J'ai les photos, tout ça. Claude Cain peut servir d'enseigne pour diverses associations, des ateliers d'écriture, des prix, des récompenses. Dernièrement, il y a un prix Claude Cain pour les métiers d'art. Jusqu'au fameux doodle, alors je ne sais pas si vous voyez de quoi il est question, en octobre 2021, au comble du malentendu, c'est-à-dire c'est un logo. Alors j'ai l'image, dommage qu'on ne puisse pas la voir. C'est un logo qui apparaît dès qu'on tape sur Google, qu'on demande Google. Vous voyez, il y a des petites images qui apparaissent là. Voilà, et c'était pour le 127e anniversaire de Claude Cain. Il y a eu cette image qui prenait appui d'ailleurs sur un autoportrait d'1928. « I'm training, don't kiss me ». Alors ce doodle est venu célébrer comme ça devant quelques millions d'internautes, si ce n'est plus, hein, sinon à la face de l'univers, je sais pas, l'anniversaire de la naissance de Claude Cain, qui, si elle eût pu l'imaginer, en serait morte de honte. Et je passe sur la ribambelle de récupération, tout fruit habituel d'une notoriété édifiée sur bien des quiproquos. Enfin, j'avoue que la présence d'un autoportrait de 1928 parmi la très sélective collection des chefs-d'œuvre photographiques du Musée d'art moderne de New York, dernièrement exposé à Paris, au Jeu de Paume. Donc cette présence de l'autoportrait m'a laissé songeur. Non que je n'admette que l'on puisse considérer un autoportrait ou non de Claude Cain comme un chef-d'œuvre, bien loin de moi, J'ai fait même tout ce que j'ai pu pour faire reconnaître la totalité de l'œuvre photographique comme l'une des plus considérables de son temps. Mais que cette image, entre bien d'autres, à mon sens beaucoup plus pertinentes, puisse figurer parmi les grandes réalisations photographiques de ce siècle. Que Claude Quin soit propulsé au zénith, elle qui n'avait aucune pratique professionnelle, dont l'œuvre est quantitativement très limitée. Ça n'a rien à voir avec une œuvre de photographe. Hein, même compte tenu des pertes, il y a quoi? Autour de 400 clichés. C'est même pas une œuvre d'amateur. C'est très peu. On peut se demander, mais le cartel au bas de la photographie viendra le confirmer, hein, mais on peut se demander s'il n'y a pas des motivations surdéterminantes et de caractère idéologique ou sociétal. Naturellement, j'y reviendrai. Quand je pense au mépris, à l'indifférence, à l'obstruction même des institutions que j'avais tant sollicitées dans les années 80-90. Nous ne savions pas quoi faire de ces photographies que nous découvrions, on en voyait l'importance, et donc j'avais essayé de solliciter de multiples institutions pour des achats groupés, pour éviter que ça se perde, que ces photographies disparaissent, enfin se perdent ou se dispersent. Mépris, refus complet. Je n'ai jamais entendu parler. Quand je pense que les commissaires de l'exposition André Breton, La beauté convulsive, au centre Pompidou, en 1991, n'ont pas même répondu à ma proposition pressante d'exposer le double autoportrait au miroir du poète Breton et de Jacqueline Lamba, pourtant un chef-d'œuvre celui-là en toute impartialité. En regard de ces marques de reconnaissance qui emportent souvent Claude Quin loin de ce qu'elle fut ou de ce qu'elle exigea pour elle-même, et qui constitue une sorte de phénomène sociologique, j'avoue me sentir de plus en plus débordé. Certes, on peut considérer le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, se féliciter d'un côté, se désoler de l'autre. C'est bien qu'elle soit pleinement reconnue, que ça, mais bon, en même temps, ça a des désavantages. Mais enfin, comment une figure aussi marginale, indisciplinée, souvent présentée comme un modèle de transgression ou de subversion, comment une démarche aussi complexe, paradoxale, contrariante, ont-elles pu bénéficier d'une sorte d'unanimité, d'une faveur institutionnelle et médiatique, à présent, hein, je ne dis pas, hein, d'une telle iconolâtrie? Tout ceci s'enchaîne-t-il logiquement? Claude Quin ne choque plus guère, semble-t-il. Elle semble bienvenue partout. Je dirais que le Panthéon n'est pas loin. Faut pas rire, je pense que... Et pourtant, nous sommes bien avertis, chez Claude Quin, rien ne va de soi, à tout le moins, pas toujours dans le sens attendu. Soyons vigilants. Dès que l'on s'interroge sur la réception de Claude Quin, il faut, on l'aura compris, faire un sort particulier aux autoportraits photographiques. Bien que certaines mises en scène d'objets fussent connues, la révélation des autoportraits, essentiellement ceux des années 20, eut un effet majeur. Leur caractère saisissant et novateur, d'une grande singularité, anticipé sur des problématiques éminemment contemporaines, telles que les acceptions de genre, l'ambivalence sexuelle, la mise en question du féminin, la déstabilisation de l'identité, la scénographie de soi, performance, travestissement, jeu de masque. Tout ça, on est en plein contemporain. De plus, il soulevait la présence et le rôle de la compagne, Suzanne Malherbe, comme il va de soi dans une relation aussi étroite et d'une telle qualité. Je me suis souvent exprimé sur ce sujet et sans doute aurons-nous l'occasion d'y revenir. Une brève remarque, j'emploie couramment le nom de Suzanne Malherbe. Là, c'est pour dire ça. Le nom de Suzanne Malherbe. Comme elle le fait elle-même, comme Claude Quin le fait elle-même. Vous verrez. Dans les textes de Claude Quin, dans la correspondance, il n'est jamais question d'amour. Je pourrai en détailler les raisons, on pourra éventuellement y revenir. Suzanne ne se sert d'un nom d'emprunt, Moore ou plus rarement Marcel Moore, exclusivement, je dis bien exclusivement, pour signer ses travaux graphiques et plastiques entre 1913 et 1929-30. Elle est décédée en 1972, donc 42 ans après. Bon, c'est pour fixer, pour situer les choses. Bien que n'ayant constitué qu'une part de l'activité de Claude Quin, les autoportraits des années 20 prirent véritablement le statut métonymique d'icône. Abordés pour eux-mêmes, hors contexte, ils ont non seulement monopolisé l'attention, mais, ce qui est plus discutable, ils ont largement dominé l'interprétation d'ensemble de la démarche intellectuelle et artistique de Claude Quin, comme s'ils allaient en donner la clé. Ce fut particulièrement le cas dans le milieu anglo-saxon, alors qu'en France, du moins au début, l'intérêt s'est tout autant porté sur la diversité des formes d'expression, les sources culturelles, l'importance du courant symboliste, les options intellectuelles ou le compagnonnage surréaliste. À titre de comparaison, on ne peut manquer d'interroger le puissant engouement, la fascination même exercée par ces images aujourd'hui, quand, du vivant de Claude Quin, elles n'ont provoqué, là où elles furent connues, ni grand retentissement, ni grand étonnement, ni embarras. Je puis en témoigner pour en avoir parlé avec des personnes qui la connurent de très près. J'ai eu la chance encore de pouvoir, dans les années 80, voir des gens qui l'avaient bien connue. Il y avait même un ancien procureur à la cour d'appel de Poitiers, dont la mère peintre fit un portrait au crâne rasé signé du pseudonyme Alex Rogier. Là, c'est assez intéressant. Ces images étaient plutôt considérées alors sous le double aspect d'une expression personnelle originale, et même très originale, et d'une réussite plastique et poétique. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant aujourd'hui, ils ne le voyaient pas vraiment. Ce qui est assez mystérieux. Il en fut de même pour José Corti, avec qui j'ai pu m'entretenir également, lorsqu'il aménagea sa vitrine rue de Clichy avec des photomontages pour aveux non avenus. Bon, il présentait des grands autoportraits de Claude Quin, au crâne rasé ou au crâne surtout très cheveux coupés très très courts. Enfin bon. Ce fut aussi la même chose pour Georges Ribemont-Dessaigne quand il inséra l'autoportrait au crâne nu et déformé dans la revue Bifur. Il faut dire que ces images s'inscrivaient naturellement dans un contexte avant-gardiste d'une grande liberté intellectuelle et morale qui encourageait les hardiesses, vantait la nouveauté et la transgression des codes, qui avaient connu les Demoiselles d'Avignon, le symbolisme décadent, le futurisme, Dada, le surréalisme, enfin qui surabondait d'expériences de toutes sortes, notamment dans le domaine photographique, dont certaines expérimentations étaient très proches de celles de Claude Carrin, ce qu'on essaie de redécouvrir aujourd'hui. On est étonné que des femmes, Conrad, etc., qui se prenaient en photo, des autoportraits de femmes et tout, il y en avait. On les redécouvre progressivement. Ceci dit, nullement pour relativiser la singularité de Claude Carrin, qu'elle pouvait marquer elle-même, pour elle-même d'ailleurs, mais pour la situer à la fois dans son temps et hors de son temps, comme pour toute démarche audacieuse. La mise à disposition des écrits de Claude Carrin, il faut bien dire d'accès parfois difficile, parfois à l'étranger, notamment à l'étranger, tout comme la publication de nombreuses études d'ensemble, pourtant riches et pertinentes, n'ont pas sensiblement modifié une lecture dominante ou la plus ostensible. Celle-ci s'est imposée dans les milieux institutionnels, musées, galeries, secteurs académiques, et conditionna la réverbération médiatique. Dans un contexte revendicatif qui porte en avant la question féministe, j'y arrive, associée à la déconstruction des identités sexuelles et sociétales, l'œuvre et la démarche de Claude Carrin furent de plus en plus étroitement rapportés, j'allais dire identifiés, à deux concepts de référence. Celui de femme, artiste et homosexuelle, et celui de genre, pluriel, queer. C'est deux concepts. Comme si l'on tenait là un principe explicatif, un schéma herméneutique qui puisse rendre compte de l'ensemble d'une aventure intellectuelle et poétique. Cette lecture de premier niveau, qui cherche dans une image ou un écrit, avant tout un message dénotatif, démonstratif, sociétal, féministe, lesbien, dégenré, inclusif, etc., s'oppose assez fortement, sinon radicalement, à l'approche toujours soutenue par Claude Carrin, notamment dans « Les Paris sont ouverts », qui fait valoir essentiellement le contenu latent, polysémique, irréductible à un décodage direct. Insistons un moment sur ces marqueurs conceptuels qui sont d'abord des truismes. Bien entendu, Claude Carrin est tout cela. Femme, artiste, lesbienne ou saphique, genré, dégenré, queer, une, multiple, etc. Tout cela est bien plus que cela. Où veut-on l'amener? Ainsi, de quelle femme parle-t-on? Tirza et Ève me pardonneront de lancer la question. Claude Carrin nous interpelle elle-même. Je cite. Femme, point d'interrogation. Oui, alors, affirmation. Hélas, à qui le dites-vous? Question. Typique des formules à la Carrin. On peut tourner longtemps sur cette formule, parce qu'elles sont très denses, ces formules, elles disent beaucoup de choses. Femme, oui, alors, hélas, à qui le dit-on? Une assertion qui n'est sûrement pas une négation, mais une interrogation à double entente. Savez-vous à qui vous parlez et savez-vous de quoi vous parlez? Elle reste dans la question et la prend à revers. Elle n'a pas la foi. C'est un terme qu'elle utilise souvent, le terme de foi. J'en reviendrai, il y aurait un travail à faire sur la notion de foi chez Carrin. Claude Carrin n'a cessé de se battre avec sa biologie, avec son destin anatomique, comme pour détourner Freud, qu'elle ne saurait d'ailleurs nier, c'est pas une négation, mais dont elle entend se délester dans une élaboration imaginaire. Son corps, elle le voit plutôt sous l'aspect d'un objet à fonctionnement symbolique, expression utilisée dans le surréalisme qu'elle reprendra à son propre compte dans un article que vous connaissez sûrement, Prenez garde aux objets domestiques. Son destin, elle le voit sous la forme d'une quête, bien sûr, plutôt d'une conquête où l'identité se confond avec la métamorphose. Je reviendrai peut-être demain sur cette question de l'identité métamorphose. Elle aura cette formule admirable, encore une formule alambiquée qui pose bien des questions, dans une légende à la série des photographies Le chemin des chats, qui est une merveille, elle met cette formule « Je vais jusqu'où je suis, je n'y suis pas encore. Je vais jusqu'où je suis, je n'y vais pas, je n'y suis pas encore. » Je pense que la relation entre identité et métamorphose. On imagine que la question du féminisme chez Claude Cahun ne puisse être menée bien loin. Deux ou trois allusions très désinvoltes ou ironiques. Elle n'a pas l'esprit de corps. Elle est ailleurs. À cet égard, comme à bien d'autres, elle rejoint son mentor et demeure très proche des thèses de Avelokelis, pourtant souvent taxées de patriarcales. Mais la libre disposition de soi, l'égalité des sexes dans la différence, l'indépendance économique et sociale, la pleine reconnaissance de la diversité des genres, relève pour elle d'une évidence intellectuelle. Ce n'est pas une question. La question, c'est qu'on vient de lui contester, on vient de contester. Mais c'est une évidence totale. Comme la présence de son couple. Ça paraît d'une évidence. Elle a, Ainsi va-t-elle s'associer activement, prenant fait et cause aux revues militantes homosexuelles, Inversion puis l'Amitié, non seulement parce qu'elle y est intéressée dans ses propres inclinations, mais parce qu'il y a un combat à mener contre les discriminations, la censure, le conformisme, un combat qui ne se divise pas, comme la liberté. Elle dira: le maintien de certaines valeurs, parmi lesquelles la liberté d'expression, et par elle, non seulement le maintien, mais la conquête de la liberté des mœurs, des droits de l'être humain opprimés par des siècles de superstitions féroces, m'importait personnellement. Voilà. Et ce combat passe par l'émancipation socio-économique et morale, et idéalement par le dépassement révolutionnaire des antagonismes historiques. D'où son attention, au moins ponctuelle, pour les thèses hegeliano-marxistes et son compagnonnage avec l'extrême gauche durant les années 30. Après la guerre, dans une lettre à Paul Lévy, elle saluera les capacités intellectuelles de Simone de Beauvoir à l'égal de celles d'un homme, sans pour autant dire qu'elle se retrouvait dans ses options idéologiques. D'ailleurs, Claude Cahun était aux antipodes de l'existentialisme sartrien, beauvoirien. Mais l'on sent que la revendication proprement féministe n'est pas élaborée chez elle. Non seulement parce qu'elle touche son propre rapport à la féminité, objet de la plus grande irrésolution, mais parce qu'elle ne coïncidait pas d'emblée avec ses options résolument individualistes, libertaires, plutôt asociales, et illégaliste. Elle ne fait pas mystère de son abomination des saloperies des lois judiciaires. Je la cite. Elle ne faisait pas mystère non plus de son abomination des leçons de morale et de toute forme de police des mœurs. Ainsi s'élève-t-elle, commentant Macorlan, contre, je la cite, la meute des chiens de garde aboyant à la lune, ou quelques Saint Bernard cherchant à dépister l'odeur d'un bien et d'un mal préconçu. Je trouve que la citation est assez dure. J'ai découvert il y a peu de temps, dans un article là qu'on ne connaissait pas, un article sur un livre à la lumière froide de Macorlan. Des lois, elle ne veut retenir que les bonnes, telles celles des saisons, des marées, la loyauté entre amis, la solidarité entre camarades, etc. Quant à l'artiste femme, il n'en est jamais question. Pas plus que l'artiste homme. Comme elle l'écrit dans une dédicace à aveu non avenu, l'aventurière s'est faite homme et femme invisibles. Et puis, on sait qu'à l'instar des surréalistes, elle refusait d'être assimilée à une artiste, lui préférant certainement celle de poète, et même du poète sans langage, sinon peut-être pour le faire entendre goéland au chat, aux fleurs d'ail sauvage. Je la cite. Enfin, j'avance un peu plus avant, là. Aussi, de quelle homosexualité parle-t-on ? Concept toujours présent et actif, souvent implicite, qu'elle ne s'applique pas directement comme elle objecte à toute assignation catégorielle. Je parle sous le regard vigilant de Michel Carassou, qui apportera son point de vue. Elle ne dit rien explicitement de ses amours saphiques, lesbiens, effectifs. On en est réduit à des suppositions. Il semble se dérober sous l'amour électif, indéfectible pour Suzanne Malherbe. Rappelons sa position de principe, hein, mon opinion sur l'homosexualité et les homosexuels est exactement la même que mon opinion sur l'hétérosexualité et les hétérosexuels. Tout dépend des individus et des circonstances. À chacun sa foi sexuelle, dira-t-elle. Au fond, il semble bien que son modèle imaginaire idéalisé passe plutôt par une forme distinctive d'homosexualité masculine uranienne. N'oublions pas que son premier texte s'intitulera « Jeu uranien ». À savoir, le tout jeune homme a la virilité à peine marquée, indécise, les faibles grecs, tel Antinous, le favori de l'empereur Adrien, ou le saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, qui satisfait, comme il dira, mon goût pour l'androgyna. Dans les héroïnes, Salmacis, autant dire Claude Cahun, veut s'unir à Hermaphrodite et ne former qu'un seul corps, mâle et femelle. De telle manière que la féminité et la virilité ne soient plus attachées à un sexe, mais ne cessent de s'échanger dans de réciproques et étroits transferts. Tout en prenant soin, c'est important, de faire valoir toutes les déclinaisons possibles et imaginables, aussi bien pour l'homosexualité que pour l'hétérosexualité. Elle aura une formule superbe, je trouve. Il est autant de manières d'être que d'étoiles. Je ne saurais en dire davantage. Il est autant de manières d'être que d'étoiles. Je ne saurais en dire davantage. La diversité est infinie. Donc, on sort des clivages. On n'est plus dans le clivage. Elle vise où elle rêve à la production d'un genre qui se moque des genres, un genre qui serait d'abord le sien, nullement opposable à d'autres, qu'elle donne parfois comme neutre, mais qu'il affirme dans son être et qu'elle projettera sur le plan de la personne. J'y reviendrai plus rapidement demain. Enfin, dans le prolongement de la question du genre, de quel rôle parle-t-on ? Quand elle entendait en définitive, comme elle dit, jouer le sien propre. Rien à voir avec les jeux de la comédie sociale, ni, me semble-t-il, avec la mascarade, selon la thèse de Joanne Rivière, que Claude Cahun contourne, en substituant au signifiant féminin établi d'autres signifiants polymorphes, atypiques, et surtout poétiquement pertinents, y compris dans la beauté bizarre et monstrueuse. Le sexe et le genre sont des modes et non des fins en soi. Ce qui importe, c'est bien leur mise en œuvre. Et je souligne œuvre. N'oublions jamais, et là je ne cesse d'insister, qu'il s'agit d'une démarche de création, non de témoignage ou de démonstration. Ce n'est pas une démarche sociologique, encore moins psychologique. Mais une démarche de création d'œuvre et création de soi. C'est pourquoi les travaux de Claude Cahun débordent l'esprit de notre temps et qu'il dispose de cette attraction dans la durée. Parce que c'est une œuvre qui a sa densité propre. Aussi, on ne saurait comprendre les grandes thématiques propres à Claude Cahun, au premier chef, la puissance de l'imaginaire et la métamorphose du réel, qu'en les réinscrivant dans une démarche d'ensemble, en faisant valoir un trajet intentionnel, disons poétique, éthique, philosophique, politique, ce qui revient à donner toute sa place, non seulement à la grande diversité des modes d'expression, conte, poème, essai, théâtre, objet, mais à certains aspects essentiels, peut-être moins attendus ou plus dérangeants, qui ont été, me semble-t-il, insuffisamment considérés. Certains feront justement l'objet de contributions ici, où nous aurons l'occasion de les aborder lors de nos rencontres. Quelques pistes en vrac, et j'en terminerai par cela. Je pense à la relative marginalisation des travaux photographiques qui n'appartiennent pas à la période promue des années 20. Il y a les autoportraits plus tardifs. Elle en a fait jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas seulement, il n'y a pas seulement 7 ou 8 ans d'autoportraits. Toute sa vie, c'est un travail sur l'autoportrait. Et les autoportraits tardifs sont extrêmement riches, ils sont superbes, ils sont peut-être d'une intensité incroyable. Donc il y a les autoportraits plus tardifs, mais ils sont formellement et thématiquement différents de ceux des années 20. Il y a aussi les mises en scène d'objets, frappés par comparaison, d'une étonnante incuriosité. La spéculation financière en fait foi. On voit bien le prix des autoportraits qui est astronomique. Quant aux mises en scène d'objets, on peut se les procurer. Je pense à son parcours politique, à sa cohérence, qui prend progressivement en compte la dimension historique, tout en conservant ses prémices éthiques foncièrement individualiste et libertaire. On en reparlera un peu plus tard. Comment comprendre son activité dans la résistance sans la relier étroitement aux valeurs qu'elle soutint dès l'adolescence, puis aux thèses des Paris sont ouverts ? ne nous cachons pas non plus ce que peut avoir de gênant, de scabreux aujourd'hui certaines de ses positions les plus affirmées, telles que son aversion pour la maternité et l'enfantement, sa défense du néo-malthusianisme, sinon de l'eugénisme, ou certaines conduites existentielles, comme son rapport fasciné à la folie. Comment accéder consciemment à la folie, à une folie décidée, dit-elle. On eût aimé qu'un psychiatre nous éclairât, mais il n'y en a pas dans la salle, si, peut-être. Également son rapport à la démocratie, plutôt réfractaire, à la violence, à la guerre. Elle se veut à la fois combattante et pacifiste, ou à la mort. Aussi son rapport essentiel et ambivalent à la nature, qui inclut une sorte de naturisme pré-écologique sur fond de poétique panthéiste. Et pourquoi est-il si peu question, cela confirme à la censure, de ses rêveries et de ses fréquentations hétérosexuelles. Les unes et les autres, bien avérées, et particulièrement révélatrices de ses ambivalences idiosyncrasiques. Je pense aussi à l'horizon proprement spéculatif ou métaphysique de sa pensée, comme la reconnaissance de la nécessité du mal. De la nécessité du mal, de la positivité du mal. On peut penser à Schelling, son texte sur la liberté humaine, ou du primat du rêve, de la vie comme rêve. Il y a cette formule, très peu de temps avant sa mort, Claude Cahun n'existe plus qu'en rêve. N'a pas cessé de rêver, ça non. Et puis, rendons justice à la présence récurrente du mythe et de la mythologie, de tant de motifs issus de la sphère religieuse ou théosophique. Et je pense à Alicia Hamak, Emmanuel. En ceci, comme en tout, sans jamais céder au parti pris ou aux illusions réconfortantes. Se marque ici une grande exigence de vérité, chaque Claude Cahun préférera dire de véracité. C'est le terme qu'elle emploie le plus souvent. Dont on peut penser, enfin, qu'elle pense plutôt comme au fondement même de la vérité. Véracité, y compris et surtout dans l'imaginaire, qu'à la manière de tous les poètes, elle prend au sérieux. La poésie, dit-elle, n'est elle-même, parfois à l'insu du poète, que l'essence de cette véracité. Je trouve que ça va très loin. Hein. La vérité, elle est dans la poésie. Elle n'est pas dans le raisonnement ou les ratiocinations. Il me semble qu'on néglige trop ce qui a constitué le cœur de sa démarche. Je veux dire la poésie elle-même comme expérience intérieure et mobile prééminent d'agir. Pas de déconstruction pour Claude Cahun sans réaffirmation, refondation, de valeurs poétiques et spirituelles dont le caractère universel sera sans cesse réaffirmé. Elle dira, pensant au surréalisme, des valeurs réelles, dignes de l'homme en tout temps, que rien n'a pu ni ne pourra jamais, à moins d'abrutissement général, empêcher de prévaloir, et jamais, à moins d'anéantissement total de l'univers, empêcher de subsister et de rejaillir. Sa révolte ontologique, son non-conformisme absolu, s'accompagne d'un idéalisme pessimiste traversé d'actes de foi aussi sincères qu'ironiques. Ironique au sens où Yankelevitch pourra parler de l'ironie, donc, comme une sorte de sérieux transcendant grâce auquel le moi n'est jamais dupe de ses objets. Ça me paraît très, très juste concernant Cain. Une sorte de sérieux transcendant, oui, alors c'est de l'humour, bien sûr, mais grâce auquel le moi n'est jamais dupe de ses objets. Enfin, il faut bien reconnaître que sa passion surréaliste, inaltérable, son adhésion si longtemps attendue au mouvement surréaliste, son amitié ou son compagnonnage avec certains de ses membres, voilà qui reste encore difficile à intégrer ou à digérer dans le manuel de lecture unilatérale dont j'ai parlé. On le voit très rarement apparaître. J'avoue être toujours aussi fasciné et admiratif face à une démarche, une pensée si riche de diversité et de contradictions, qui, sans être discursive ou systématique, témoigne en même temps d'une telle cohérence, d'une telle densité et d'une telle lucidité. Mais avec Claude Cain, il faut abandonner, on l'aura compris, une logique binaire ou de tiers exclus. J'avais été frappé par la remarque d'une amie qui, hélas, n'est pas là avec nous. Décidément, Claude Cain, on ne peut jamais la prendre en défaut. C'est exagéré, mais comment ne pas se faire la réflexion devant un parcours qui a évité bien des pièges théoriques ou pratiques tendus par les idéologies. Paradoxalement, après 40 ans et une réception aussi caractérisée, il est peut-être temps de débrouiller certaines couches de lecture et, par-delà l'inventaire critique, d'inviter une sorte de retour à Claude Cain, sans omettre, de nous interroger nous-mêmes, de nous demander enfin ce que nous veut Claude Cain, ou plutôt que lui nous voulons-nous. Car il est peut-être outrancier de dire qu'elle a pu devenir un objet de désir. En tout cas, elle est bel et bien devenue, et pour certains explicitement, un objet de projection et d'identification. Il est vrai qu'elle nous tend souvent la perche, et nul n'échappe. On pourrait, par exemple, m'interroger sur mes propres motivations. Aussi, mais méfions-nous. Le fait est que la fréquentation de Claude Cain, si j'ose dire, est un révélateur de notre part d'inconnu, à commencer par notre propre alchimie féminine et masculine, et un réactif puissant qui porte au-devant de soi. Une des ambitions probablement les plus exaltantes de ces rencontres, n'est-ce pas finalement de nous mettre à l'épreuve et en définitive de nous mettre dans cette position, non seulement penser Claude Cain, mais effectivement penser avec elle. Voilà. J'ai été trop long, Charles.